Bienvenue dans les chemins de l'ergothérapie, issu du collectif Occupe ton ergo. C'est une émission qui vise à rendre la littérature en ergothérapie et en sciences de l'occupation plus accessible. Pour cela, je prends un article relié à l'ergothérapie et ou aux sciences de l'occupation. Je vous en parle et je vous dis aussi ce que j'en ai pensé. Les liens avec la pratique de l'ergothérapie, l'évolution de la profession et des professionnels que j'y vois. Je suis Clémence et aujourd'hui je vous présente l'article « Habiliter les travailleurs à préserver leur santé mentale, que font les ergothérapeutes ?» écrit par Alexandra Lecourt et Charles Groslot et publié dans le Canadian Journal of Occupational Therapy en 2022. C'est le dernier épisode de la série sur l'habilitation. Nous avons vu dans les précédents la place de l'habilitation et de ce concept dans le cadre du pouvoir et de la justice. En quelque sorte, les racines théoriques et idéologiques de l'habilitation. Puis, l'habilitation comme outil pour développer le sentiment d'appartenance et la volonté de s'engager dans des occupations, en s'ancrant sur l'environnement, la façon dont l'environnement est facteur d'habilitation à l'environnement. Cet article va plus aborder la notion pratique, clinique. Comment concrètement, en tant qu'ergothérapeute, il est possible de réaliser des interventions en vue de l'habilitation à l'occupation. Concernant les auteurs et autrices, Alexandra Lecourt est titulaire de chaire de recherche à l'Université de Québec à Trois-Rivières sur la santé des travailleurs vieillissants. Elle est professeure au département d'ergothérapie. Et Charles Groslot est employé au Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la capitale nationale du Québec. Il est également ergothérapeute. La revue, c'est le Canadian Journal of Occupational Therapy, aka la revue canadienne en ergothérapie. C'est une revue bilingue, revue par les pairs, qui publie des articles autour des théories, des pratiques, des recherches, dans le but de faire évoluer les connaissances en ergothérapie. Les présentations sont faites. Maintenant, que nous dit l'article ? Cet article s'intéresse particulièrement à la santé mentale des travailleurs et des travailleuses. Le travail, c'est une occupation très répandu et valorisé dans plusieurs cultures et sociétés. Le travail permet de contribuer à l'économie et agit comme déterminant de la santé. Ce déterminant peut avoir des répercussions positives ou négatives sur la santé des individus. Lorsque les effets sont négatifs, au point de produire une situation d'invalidité, l'ergothérapeute, en tant que professionnel de santé, qui se centre sur les occupations, peut intervenir au travers de la réhabilitation et habiliter à l'occupation, à la fois vers un retour au travail et vers une participation saine et durable dans cette occupation. Les ergothérapeutes ont des compétences par rapport à la prévention des troubles de santé, pour agir en vue de développer des capacités, modifier l'environnement et encourager l'engagement occupationnel. Les autrices et auteurs rappellent que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, souligne l'importance d'une vision holistique de la santé s'appuyant sur les composantes physiques, mentales et sociales de la santé. Vision que les ergothérapeutes adoptent depuis plusieurs années et offre un spectre d'intervention large. En ce qui concerne les travailleurs et les travailleuses, on retrouve une augmentation des atteintes de la santé mentale, allant jusqu'à devenir la principale cause d'invalidité au niveau mondial. Cela induit une perte de productivité et ces invalidités durent dans le temps et sont à risque de récidive et de rechute plus que des invalidités motrices. On peut ainsi dire que les atteintes à la santé mentale ont des répercussions pour les travailleuses et les travailleurs, pour la société, pour les organisations, et qu'il est donc important et nécessaire de prévenir et de réadapter en vue d'un retour au travail de ces personnes. En date de l'article, les autrices et auteurs ont surtout retrouvé dans la littérature une pratique des ergothérapeutes autour de l'habilitation et de la participation des travailleurs et travailleuses sous l'angle de la santé physique, notamment via les gestes et postures, l'aménagement de l'environnement, pour réduire ou prévenir les altérations physiques. Quelques travaux s'intéressent aussi au stress et à l'épuisement professionnel, ou aux répercussions cognitives de la dépression. Un programme thérapeutique de retour au travail pour les travailleuses et les travailleurs ayant un trouble mental a été pensé et des travaux étudient sa faisabilité. Ce programme s'appuie sur des objectifs tels que promouvoir un retour sain et durable, améliorer les habiletés de communication, identifier les situations conflictuelles. Les interactions et actions pour atteindre ces objectifs peuvent relever des compétences de l'ergothérapeute. La littérature et les recommandations soulignent bien que les ergothérapeutes ont les compétences pour agir dans le cadre d'atteinte à la santé mentale des travailleurs et travailleuses. Mais ces éléments sont très théoriques et il n'y a pas de guide pour accompagner les ergothérapeutes dans ce cadre d'intervention. Le but de l'étude est donc de décrire des interventions réalisées par les ergothérapeutes en regard de l'habilitation des travailleuses et des travailleurs à préserver leur santé mentale. Lecourt et Grolot fondent leur réflexion sur un cadre théorique, qui est le modèle des comportements préventifs pour la santé mentale. Ce modèle postule que tous les individus présents dans un milieu de travail influent sur la santé des travailleuses et des travailleurs, et que tous les comportements ne peuvent avoir de réelles conséquences de prévention que si ces comportements ont lieu dans un contexte favorisant. Ce modèle s'appuie sur 10 comportements, répartis selon 3 étapes. La première correspond à l'adoption d'une pratique réflexive, c'est-à-dire analyser sa situation de travail, notamment identifier les risques, mais aussi l'auto-évaluation de ces risques, pour pouvoir prendre des décisions favorables à la santé au regard de cette réflexion. Ensuite, le ou la professionnel peut agir pour sa propre santé mentale, au travers de la communication, notamment face à ses limites, et pouvoir utiliser les ressources disponibles dans le milieu de travail, et ensuite adopter une bonne hygiène de vie et s'investir dans son travail. La dernière étape, pour avoir un comportement préventif pour la santé mentale, revient à agir pour la santé mentale du collectif, avoir une action plus macro, on pourrait dire. Et dans ce cas, s'impliquer au niveau de l'organisation, travailler en équipe et se soucier de ses collègues. Ce sont des cibles, des objectifs à atteindre, des comportements pour habiliter les travailleuses et les travailleurs à préserver leur santé mentale. Toutefois, il est difficile de s'y retrouver en tant qu'ergothérapeute, savoir comment il est possible d'inscrire la pratique de l'ergothérapie dans ces modèles de prévention, surtout qu'il manque de données probantes et d'écrits scientifiques pour les actions empiriques conduites. La méthodologie employée est une recherche qualitative, descriptive, qui permet de décrire un phénomène en s'appuyant sur la perspective de la personne qui vit le phénomène. Les participants et participantes devaient pratiquer au Canada en tant qu'ergothérapeute depuis au moins un an, parler et comprendre le français et participer dans le domaine de la réadaptation socio-professionnelle. Le recrutement s'est fait par échantillonnage à variation maximale pour avoir des profils variés. Concernant le nombre de participants et de participantes, l'idée était d'atteindre la saturation des données, déterminée entre 12 et 24 personnes. L'enquête menée a rassemblé 19 participants et participantes. Les données ont été recueillies via des entretiens téléphoniques individuels à partir d'un guide d'entretien construit en 4 sections. Les informations sociodémographiques, un temps d'échange introductif sur les pratiques, un temps plus orienté vers les interventions pour l'habilitation des travailleuses et des travailleurs, et enfin une clôture pour s'assurer de ne pas être passé à côté d'informations. Pour l'analyse, les autrices et auteurs ont transcrit les entretiens en verbatim pour effectuer une analyse thématique, pour organiser le contenu en thèmes et en catégories, puis en codes. Le codage a été réalisé de façon indépendante pour ensuite rassembler les observations des deux auteurs et autrices et discuter de ces codes, de ces catégories et de ces thèmes. L'étude a également reçu une certification éthique. En ce qui concerne les résultats, 18 femmes et un homme ont été entretenus. Par accord de majorité, j'aborderai les résultats maintenant au féminin. L'âge moyen des participantes était de 39,2 ans, plus ou moins 10, avec une pratique clinique depuis 10 ans, plus ou moins 7. Ici, on voit une grande variabilité, à la fois des âges et de la pratique. La majorité était en clinique privée. L'analyse a permis d'identifier 31 interventions réalisées par les ergothérapeutes, qui peuvent être réparties en 8 catégories. La première catégorie abordée correspond à l'harmonisation, c'est-à-dire réaliser des actions pour ajuster le contexte, tels que la modification des tâches, de l'environnement, de l'organisation, pour que ces éléments soient favorables au retour au travail et à la préservation de la santé mentale. C'est donc l'harmonisation entre le contexte de travail, le travailleur, la travailleuse, mais mais qui se confrontent aussi aux invariants du contexte de travail. La seconde catégorie d'intervention concerne l'éducation, la transmission d'informations, de connaissances aux travailleuses et travailleurs. Cela renvoie notamment aux connaissances par rapport au stress, à l'hygiène de vie, les principes de conservation d'énergie, les conditions de la santé, les ressources disponibles. La troisième catégorie retrouvée correspond au soutien. Les participantes agissent en soutien pour désamorcer les craintes, anticiper les difficultés via de l'écoute active, de la réassurance. Soutenir aussi l'expression du vécu des travailleuses et des travailleurs. Viennent ensuite les encouragements. Ce sont des interventions qui se concentrent sur favoriser la personne pour qu'elle partage ses idées, ses ressentis auprès des autres collègues. Valider le vécu, le considérer comme légitime par exemple. Une autre catégorie retrouvée correspond à la collaboration. Une alliance avec les travailleuses et travailleurs ainsi qu'avec l'employeur ou l'employeuse. Une sixième catégorie analysée dans le discours des participantes correspond au coaching. Être facilitateur, inviter à la réflexivité, guider dans la résolution de problèmes, accompagner dans le respect des limites personnelles. Une autre catégorie, non axée sur le travail, mais qui est revenue dans le discours des participantes, représente la redéfinition du quotidien pour favoriser la reprise d'un équilibre occupationnel. Et la dernière catégorie correspond à l'entraînement, la mise en action des personnes pour développer les habiletés, notamment de communication ou les capacités de travail, faire vivre des expériences de réussite. Après ces résultats, le cours et Grelot abordent la discussion. Les résultats retrouvés mettent en évidence que les ergothérapeutes agissent de façon empirique dans les pratiques d'habilitation. Ces résultats interrogent sur la spécificité des interventions, la double cible de ces interventions et l'importance de tenir compte de l'environnement. Donc, tout d'abord, discutons de la notion de spécificité des interventions réalisées par les ergothérapeutes pour améliorer la santé mentale des travailleurs et des travailleuses. On retrouve la communication, la gestion du stress, l'hygiène de vie. Ce type d'interventions ne sont d'une part pas spécifiques à la pratique des ergothérapeutes et sont difficilement réalisables dans les contextes institutionnels. Mais cette étude, elle mérite de donner des pistes concrètes d'action. Reste à étudier la répercussion de ces interventions. Cette étude s'est concentrée sur l'habilitation des travailleuses et des travailleurs à préserver leur santé mentale. Et les interventions proposées, d'après la littérature, permettent également de préserver la santé physique. Donc, l'un dans l'autre, les interventions ont une double action, à la fois sur la santé mentale et la santé physique des travailleuses et des travailleurs. Le dernier point soulevé dans cette discussion s'attache à la prise en compte de l'environnement. L'étude conduite a permis de recenser des interventions qui proposent de développer des comportements individuels et préventifs. Le cadre théorique présenté au début de l'article renvoie à l'adoption d'une pratique réflexive et l'action pour sa propre santé mentale. Ce sont des éléments retrouvés lors de l'étude. Mais le modèle apporte aussi un troisième comportement qui s'intéresse à l'action pour la santé mentale du collectif. Et cela n'a pas été mis en évidence dans les rencontres. Lorsque la notion du collectif, de l'équipe de travail est abordée, c'est sous un angle individuel, tel que encourager à travailler en équipe ou s'impliquer individuellement dans l'organisation, faire attention aux autres. Or, il est bien pris en compte dans le modèle des comportements préventifs que le milieu se comprend comme une interaction entre les personnes, mais aussi le collectif, l'ensemble de l'environnement, dans toute sa complexité. En parallèle, on retrouve dans le recensement des pratiques des ergothérapeutes québécois des évaluations orientées sur la personne, ses compétences, ses capacités, et pas tant sur l'influence des facteurs environnementaux. L'approche centrée sur la personne est une valeur très importante dans la pratique des ergothérapeutes. Et les approches centrées sur l'inclusion sociale, l'écologie, sont des valeurs moins plébiscitées. Tout cela concorde avec ce que l'étude apporte. Toutefois, en ergothérapie, l'environnement est connu comme un grand facteur d'influence. Pour répondre à ce petit paradoxe, les autrices et auteurs s'appuient sur la théorie de l'échange social, qui postule qu'un comportement envers une personne induit un comportement de cette personne envers soi. L'article prend l'exemple que d'aider un collègue dans une tâche va entraîner une écoute plus attentive de ce collègue par la suite. Par conséquent, en adoptant des comportements préventifs pour soi et dans l'environnement de travail, cela induit à un retour des comportements préventifs à son égard. et met en place un climat de prévention durable dans le milieu de travail. Dans ce contexte, les ergothérapeutes devraient encourager les professionnels à mettre en place des actions de prévention envers l'environnement et bénéficier par conséquent de la théorie de l'échange social dans le monde professionnel. Pour cela, les ergothérapeutes doivent acquérir de nouvelles connaissances sur les lieux de travail. L'article aborde la notion d'indemnisation et d'assouplissement des règles pour faciliter l'accès au milieu de travail. Et cela est donc propre au fonctionnement de financement de la pratique au Québec. Chacun des pays a ses propres spécificités. Donc, à vous de transposer, de traduire cela et ce que ça signifie dans votre propre cadre de pratique et de financement. Les autrices et auteurs ajoutent aussi que ce changement de règles, de fonctionnement, pourrait être soutenu par l'approche communautaire. Considérer un milieu de travail comme une communauté, notamment l'approche centrée sur la communauté. Cet article comporte des limites, notamment par le biais de désirabilité sociale induite par la méthodologie choisie. Le fait que la majorité des ergothérapeutes interviewés aient une pratique au Québec, qui limite dans une certaine mesure la transférabilité des résultats dans un autre contexte sociopolitique. En conclusion, cette étude permet d'avoir une description et un recensement des interventions réalisées par les ergothérapeutes pour habiliter les travailleuses et les travailleurs à préserver leur santé mentale, avec la possibilité d'actions concrètes, dont les modalités sont présentées. Cependant, ces interventions s'attachent plus spécifiquement à la personne pour promouvoir sa santé mentale. Les comportements préventifs, orientés, axés sur l'environnement, sont peu abordés. Si l'on prend en compte l'importance de l'environnement sur la santé, il faut approfondir les recherches, développer plus d'outils dans l'accompagnement à l'habilitation des travailleuses et des travailleurs vers des comportements préventifs axés sur la société et soutenir un environnement de travail et une participation saine pour la santé physique et mentale. Voilà, l'article est terminé. Maintenant, je vais vous partager ce que j'en ai pensé. J'ai plein de choses à dire. Enfin, cet article m'a conduite à beaucoup de réflexions, d'interrogations. Je vais essayer d'ordonner tout ça. Alors, commençons par le plus simple, les remarques pratico-pratiques. À la fin de l'article, juste avant la biblio, il y a une petite rubrique qui contient les messages clés. Tous les articles n'en ont pas, parfois ça dépend de la revue. Mais j'aime bien quand c'est présent, parce que parfois on se perd dans la lecture, on s'attache à des éléments et moins à d'autres. Là, les messages clés complètent l'abstract et permettent d'avoir une vision rapide, de se remettre en tête rapidement le contenu de l'article. C'est le troisième article de la série sur la notion d'habilitation, et c'est le troisième issu de la revue canadienne. J'ai pas fait mes recherches sur le site de la revue, mais les principaux articles que j'ai retrouvés et ceux qui m'ont parlé sont issus de cette revue. Je ne sais pas trop quoi en penser. On peut se dire... Normal, c'est un concept qui est plutôt né au Canada, qui prend vraiment racine dans ce contexte, sociologique, culturel et politique. Donc, c'est plus accepté, plus publié, dans une revue traversée par ses identités. Après, on peut aussi interroger la transférabilité de ce concept. Et là, il faut s'intéresser aux autrices et auteurs, leur localisation. Pour le coup, tous sont canadiens et canadiennes. Quelle est donc la réalité de ce concept en dehors du Canada ? On peut aussi prendre le parti de se dire que, à l'instar du concept de la justice occupationnelle intergénérationnelle, c'est une notion, un concept jeune. Moins que la justice occupationnelle intergénérationnelle, mais pas trop vieux quand même. Et donc, il est plus utilisé, plus approfondi, fait plus l'objet de recherches dans le contexte dans lequel il a pu émerger. Et par conséquent, dans quelques années, quand d'autres pays... D'autres ergothérapeutes ailleurs s'en seront saisis et auront éprouvé ce qu'est l'habilitation dans leur contexte. On aura des articles sur le sujet, peut-être avec des auteurs plus différents ou dans d'autres revues. Une autre chose, moi j'aime bien les mots. En tout cas, j'aime bien trouver les bons mots. Je m'attache au sens et aux représentations des mots. Dans l'article, les autrices et auteurs parlent d'atteinte à la santé mentale, et non de troubles de la santé mentale. Pour moi, c'est significatif et assez chouette de changer ce mot. Je sais pas comment c'est ailleurs, mais par exemple, je trouve qu'en France, on fait doucement la distinction entre santé mentale et psychiatrie, et encore, c'est parce qu'on a eu Covid. Donc là, j'aime bien qu'on ait vraiment cette attention à une atteinte de la santé mentale, et non un trouble de la santé mentale. Si on reste sur l'idée de la santé mentale, cet article et le précédent réalisaient leur étude avec un focus sur la santé mentale. Un peu comme si l'habilitation, c'était pour la santé mentale ce que les aides techniques sont à la santé physique. Et c'est, je crois, l'élément qui m'interpelle le plus. D'une part, je comprends que l'habilitation, en tant que concept, est plus évident et plus saillant lorsqu'on parle de santé mentale. Je comprends, lorsque l'on parle de santé physique, qu'il est plus facile de faire un raccourci, d'avoir une perspective individuelle et de se cacher, entre guillemets, derrière les aides techniques. Et une mise en conformité du corps avec ce que l'on attend, on pourrait dire rendre accessible. Et une fois que cette accessibilité est permise, on n'a pas à questionner l'habilitation. Et d'un autre côté, je crains que l'on tombe dans le même écueil en s'attachant à comprendre et rendre compte de l'habilitation au travers de la santé mentale. Là, par exemple, c'est assez visible. Pour moi, et selon mes précédentes lectures, la notion, le concept d'habilitation renvoie plus à un tout qu'à un individu. Or, l'étude présente des actions d'habilitation pour et sur l'individu. Ça me pose donc finalement la question de qu'est-ce que l'habilitation ? Est-ce qu'il y a différentes définitions de l'habilitation qui invitent à agir à différents niveaux ? Est-ce qu'il y a des stratégies d'habilitation, micro, méso, macro ? Je n'ai vraiment pas assez lu sur le sujet pour avoir une réponse fondée, structurée, représentative de la littérature. D'après ma compréhension de la chose, qui peut largement être mise en question et interrogée, le contexte est un élément essentiel dans le processus d'habilitation. Comme précisé dans l'article de Townsend dans le premier épisode de la série, habiliter c'est rendre capable, pas uniquement au niveau des capacités individuelles, mais aussi faire en sorte que l'environnement offre des opportunités pour s'engager. Donc lorsque l'on agit en tant qu'ergothérapeute pour habiliter, il faut aussi agir pour rendre l'environnement accessible et facilitant. Et cela concerne toute personne présentant des troubles ou atteintes à la santé mentale et ou physique, ou non. Pour moi, l'habilitation touche vraiment à l'aspect de justice occupationnelle. Et ça m'a aussi permis de mieux m'approprier ce concept, de le rendre plus concret dans l'action des professionnels. Mais bon, je crois qu'il est temps de clôturer cet épisode, et donc cette série, sur l'habilitation. J'espère que cela vous a permis de vous familiariser avec ce concept que l'on entend de plus en plus. Et si vous avez plein d'interrogations sur le sujet, bah c'est aussi mon cas. Voilà, pour conclure, merci à toutes et à tous d'écouter le podcast et de faire grandir le réseau. L'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à partager vos remarques, vos réflexions, vos commentaires, que ce soit en privé ou au travers des différents réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à partager et à nous aider à faire grandir le collectif. Le collectif Occupe ton ergo sur le semeur d'ergo réflexion. Alors, c'est aussi à vous de jouer. Et surtout, merci.